Frères et sœurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de reconnaître bien des visages connus. Je vous apporte les salutations de notre secrétaire général, le pasteur Marc Dereux, qui, sachant que je venais, m'a dit « mais salue-les bien ». Et puis aussi de l'équipe qui travaille à l'Institut biblique de Nogent pour former des étudiants. Des noms que vous connaissez peut-être, Lydia Jäger, Jacques Blocher, Sylvain Romerowski, Anne Ruholt, etc. Vous m'avez confié un sujet intéressant sur lequel j'ai travaillé. La difficulté, c'est de l'aborder en peu de temps. Et donc, je vais essayer de faire ce tour de force. Je vous invite à titre d'exemple à lire deux textes dans le Nouveau Testament qui serviront de point de départ ou d'illustration à notre réflexion. Il s'agit dans l'épître de Timothée, la première à Timothée, au chapitre 3, des qualités qui sont requises pour l'évêque. Autre terme utilisé pour parler de l'ancien, dans l'épître de Tite ensuite. Alors je le lis dans la Bible du Semeur, ce qui fait que vous serez peut-être un petit peu étonné par le choix de la terminologie un peu différente des versions habituelles. Donc 1 Timothée 3, au verset 1, voici ce que dit l'Écriture. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Donc ça, c'est ce qui se dit. Cette parole est certaine, répond l'apôtre Paul. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Première lecture, la seconde dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 1. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non comme si vous y étiez forcés, mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraints, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu, chers amis. Tour à tour bibliste, conseiller spirituel, animateur de la vie de l'Église, représentant de la communauté à l'extérieur, évangéliste, travailleur social, bricoleur, parfois concierge, et bien sûr homme de comité, le pasteur a tout d'un grand polyvalent. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Parce que cette polyvalence lui fait courir deux risques. Le premier, c'est qu'il se croit indispensable et qu'il se disperse dans une multitude d'activités. Le second, c'est que l'Église le croit irremplaçable et se défausse sur lui d'une part de ses responsabilités. Je vous propose, chers amis, ce matin, de faire le point sur le ministère pastoral en répondant à trois questions de façon inégale, en fait. La première question à laquelle je voudrais répondre, c'est « qu'est-ce qu'un pasteur ?» Et je voudrais parler des compétences du pasteur et un peu de sa formation. La deuxième question à laquelle je voudrais répondre, c'est « comment devient-on pasteur ?» Et je voudrais vous parler de vocation. Et puis, pour finir, j'aimerais vous dire quelques mots des conditions. Quelles conditions sont propices à l'exercice du ministère? Et je voudrais vous dire quelques mots de la collaboration et de la rémunération. Je fais deux remarques avant d'entrer dans le vif du sujet. Je suis professeur, je forme moi-même des pasteurs. Du coup, il se peut que je parle un peu en professeur. Vous m'en excuserez. La deuxième chose, c'est que je vais tenir pour acquis, même si on peut le discuter, le type de ministère pastoral qui est assez commun dans notre fédération baptiste, à savoir un responsable enseignant, rémunéré la plupart du temps, à temps partiel ou à temps complet, pour conduire avec d'autres, la précision est importante, la communauté. Alors, en matière de compétences et de formation, qu'est-il attendu? Qu'est-ce qu'un pasteur? Pour être un bon pasteur, ce que je comprends de l'Écriture et de mon expérience, c'est qu'il faut réunir au moins des compétences minimum dans au moins trois domaines. Il faut être apte à enseigner, cette qualité est mentionnée dans la liste que je vous ai lue. Il faut être prêt à conduire l'Église locale et il faut être disposé à prendre soin des brebis du troupeau. Pour le dire autrement, le pasteur doit avoir des aptitudes à la communication, aussi bien dans le fond que sur la forme, à l'animation et à la relation. L'absence totale de disposition dans l'un de ces trois domaines rend l'exercice du ministère très difficile. Imaginez un très bon enseignant qui est cassant avec les gens, il ne pourra difficilement prétendre conduire une église. De même qu'un fin psychologue qui ne saurait apporter un enseignement biblique solide en public ne suffira pas à faire un bon pasteur. Alors, la première qualité, c'est l'aptitude à l'enseignement. Parce que la foi naît du message que l'on entend et que ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ, le pasteur doit être fondé sur l'Écriture et savoir communiquer la saine doctrine. L'absence d'aptitude en ce domaine ne l'empêchera pas d'animer la vie de la communauté s'il a quelques dispositions dans ce domaine, ni de manifester la sympathie aux membres de l'Église, ou mieux, de développer un rôle de quasi-psychologue à leur profit, mais s'il n'a pas d'aptitude à l'enseignement, et s'il n'est pas versé dans l'Écriture, il usurpera son rôle et entraînera le troupeau dans la voie dangereuse de la sous-nutrition sur le plan spirituel. Excusez-moi. L'aptitude à l'enseignement qui lui est demandée, dans 1 Timothée, que je vous ai lu, et si vous avez été attentif, les qualités qui sont requises de l'évêque ou de l'ancien, du pasteur, sont toutes relationnelles, sauf une, qui est fonctionnelle, c'est l'aptitude à l'enseignement. Les trois qualités pour être un enseignant, c'est d'abord d'avoir une bonne connaissance biblique. Je dirais même une excellente connaissance biblique. Il est indispensable que le pasteur soit versé dans les Écritures, qu'il ait à la fois une bonne vue d'ensemble des textes, une connaissance précise de la progression de la révélation, de l'ancien au nouveau, et une solide formation doctrinale. Trop de pasteurs, mes amis, donnent à leur église un enseignement parcellaire composé des seuls versets ou passages qu'ils affectionnent ou qu'ils ont entendu lors de la dernière pastorale ou de la convention à laquelle ils ont assisté, quand ils ne se contentent pas de rabâcher des thèmes basiques en utilisant la Bible à la manière un peu d'un Vidal. Vous savez ce que c'est que le Vidal ? Dictionnaire des médicaments. Hein ? À chaque situation, un petit verset ici, un petit verset là, sans égard pour la richesse et la complexité des Écritures, pour la singularité des personnes et pour la diversité de l'auditoire. Alors, je vais essayer d'être bref sur ce sujet parce que je pourrais en parler longtemps en tant que prof, mais si je devais qualifier cette connaissance, je dirais qu'elle doit être absolument centrée sur le Christ. Il est impératif que la connaissance acquise par le pasteur et ensuite transmise ait bien le Christ pour centre. Selon la très belle pensée du philosophe Pascal, ainsi, sans l'Écriture, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la propre nature, c'est-à-dire dans notre nature. Ainsi, la connaissance biblique dont les pasteurs ont besoin et qui sont appelés à transmettre est celle qui mène à un attachement plus fort à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas juste d'augmenter son savoir académique. Et cette connaissance, bonne nouvelle, Eric, ne s'acquiert pas seulement à l'Institut biblique. Elle s'acquiert dans l'intimité avec le Seigneur et dans la fréquentation de sa parole. La deuxième qualité pour être un bon enseignant, c'est d'avoir une réflexion personnelle, une bonne réflexion personnelle. Je crois, mes amis, que le pasteur accomplit un ministère prophétique quand il prêche. C'est-à-dire qu'il doit être capable de mettre la parole de Dieu en résonance avec la vie de ses auditeurs pour leur montrer en quoi la vérité biblique concerne leur existence quotidienne. Et quand je parle d'existence quotidienne, je pense autant à son engagement de foi, à la personne qui est en face de moi, qu'à sa vie professionnelle, à sa vie d'église, qu'à sa vie sociale. Pour y parvenir, le pasteur doit développer une bonne capacité de réflexion pendant sa formation initiale. Alors, vous savez, la formation initiale dans le monde évangélique peut se faire soit dans une école, soit aux côtés d'un autre pasteur, selon les milieux. Mais cette réflexion, il faut la nourrir ensuite. Et il y avait un célèbre théologien qui disait que pour prêcher, il fallait avoir la Bible dans une main et le journal dans l'autre. C'est-à-dire comprendre la société dans laquelle nous vivons. Troisième qualité pour être un bon enseignant, il faut avoir une assez bonne technique de communication. C'est-à-dire qu'il faut que le pasteur soit capable de communiquer de façon claire, attrayante, la vérité de l'Écriture dans des circonstances variées et avec des moyens divers. Le pasteur a pour responsabilité de former des frères et sœurs pour qu'ils assurent un service au nom du Christ dans l'Église et dans le monde. Il doit donc non seulement connaître l'Écriture, mais il doit être capable de la transmettre. Mais vous avez remarqué que mon propos est volontairement minimaliste. J'ai dit qu'il fallait une excellente connaissance biblique, une bonne réflexion personnelle, et j'ai dit une assez bonne technique de communication. Pourquoi ? Parce que je voudrais souligner ici que la séduction du discours n'est pas la priorité du pasteur. La nature même du message qu'il a à transmettre doit le retenir de compter sur les effets de manche pour convaincre. Il ne vend rien. Il ne vend pas une idée même généreuse. Il annonce une personne, le Christ, à qui il rend témoignage par la parole et par l'esprit, comme le dit l'apôtre, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. À propos de cette tâche primordiale du berger, du pasteur qui est de nourrir le troupeau, John Stott a une formule ramassée dont il a le secret. « Nous devons rendre la parole, dit-il au pasteur, tellement claire que les membres peuvent se nourrir eux-mêmes facilement. Tellement riche qu'ils peuvent en extraire le suc pendant toute la semaine et tellement savoureuse que leur appétit est aiguisé et prêt à en consommer davantage. » parce qu'ils n'en ont pas toujours le goût, et que le temps important et surtout invisible de la préparation spirituelle et intellectuelle qu'il faut mettre pour un message, pour une étude biblique, n'est pas toujours bien compris par l'Assemblée. De trop nombreux pasteurs négligent cet aspect primordial du ministère. C'est une erreur dont il faut se garder. Un puritain, Thomas Goodwin, combattait l'idée que la préparation était du temps perdu en disant ceci. Le moissonneur reçoit un salaire, même pour le temps qu'il passe à aiguiser sa faux. Le maçonneur reçoit un salaire, même pour le temps qu'il passe à aiguiser sa faux. Alors il doit être apte à enseigner, puis il doit être prêt à conduire. La nuance que j'ai introduite en disant être prêt tient à la difficulté particulière de cet aspect du ministère. Celui qui assume une responsabilité pastorale, qu'il le veuille ou non, se trouve en position de leader. Alors vous verrez tout à l'heure, je ne dis pas de leader unique, mais de leader quand même. Une position qui consiste à entraîner le troupeau sur des voies nouvelles de témoignage, de mise en place de nouvelles activités, de développement réfléchi et volontaire de la communauté. Et je pense que le mot de George Bernard Shaw s'applique bien au pasteur quand il dit, au pasteur comme conducteur, « Vous voyez les choses comme elles sont et vous dites pourquoi ? Mais moi, je rêve de choses qui n'ont jamais été et je dis pourquoi pas ?» Chers amis, pendant mes années où j'ai été secrétaire général de la Fédération Baptiste, j'ai fait une étude sur les causes des conflits dans nos églises. Et j'ai observé qu'une part importante des conflits était liée au manque de leadership des pasteurs. Je vais vous expliquer. Tel pasteur lance une idée neuve dans une église. Savez-vous que quand vous voulez changer quelque chose dans une église, la première chose que vous créez, c'est du stress. Parce que le changement n'est pas si facile à accepter. Donc il lance cette idée, mais après il est incapable de gérer le stress qu'il a produit. Il ne sait pas rassurer le troupeau. Manque de leadership. Tel autre voit un conflit naître entre deux familles, il laisse la situation se dégrader, puis il est ballotté entre les protagonistes sans savoir faire preuve ni d'impartialité ni d'autorité. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Cette difficulté à conduire, que j'ai observée chez plusieurs de mes collègues, est probablement le reflet de l'état général de notre société qui n'aime pas les figures d'autorité et en particulier celles du Père. Je suis pourtant convaincu que nos églises ont besoin de leaders forts et que pour ce faire, les pasteurs devraient avoir des compétences dans les domaines suivants. L'animation d'équipe, la formulation et la mise en œuvre de projets et la gestion des conflits. L'animation d'équipe, la taille de nos églises et peut-être le contexte religieux avec la figure solitaire du prêtre catholique fait que le pastorat est souvent conçu et vécu comme un ministère seul. Je crois pourtant que pour des raisons bibliques et pratiques, un pasteur ne devrait pas conduire seul une église locale, mais le faire en animant une équipe pastorale ou un conseil. Lequel d'ailleurs conseil ou équipe pastorale animera lui-même l'ensemble de l'Assemblée. Deuxième chose qu'il devrait apprendre, c'est à formuler, à mettre en œuvre un projet. À mon sens, trop peu de pasteurs savent formuler un projet substantiel pour l'Église, le mettre en œuvre dans la communauté dont ils ont la charge. Du coup, leur ministère ne s'inscrit pas dans une vision ambitieuse et ils se contentent et parfois s'épuisent simplement à maintenir ce qui existe. Par contre, si un pasteur sait formuler un projet d'essaimage, un projet de croissance, un projet d'action en direction de personnes particulières et entraîner l'Église pour le mettre en œuvre, il peut y avoir de beaux développements. Enfin, troisième domaine où, dans la conduite, le pasteur devrait avoir quelques notions, c'est la gestion des conflits. Il me semble que le pasteur devrait être alerté sur l'apparition inévitable de conflits dans la vie de l'Église. Et je vous signale que les conflits peuvent avoir pour origine la personne du pasteur, ça arrive. Parfois, le pasteur est simplement le témoin de disputes qui lui échappent, qui sont le fait de membres, de personnes qui sont là. Mais parfois, le pasteur est la tête de turc d'une situation conflictuelle dont il n'est pas le responsable, mais dont il est un peu l'exutoire. Il faut savoir gérer ça. Ici, on touche à une question difficile, c'est celle de la discipline dans la vie de l'Église, mais aussi une autre qui lui est associée et qui n'est pas si bien vécue que ça dans nos églises évangéliques, c'est le pardon. Savoir vivre, donner et recevoir le pardon. Évidemment, dans ce domaine, il ne serait pas inutile que le pasteur ait quelques notions de psychologie et de techniques de médiation. Ça peut éviter de faire quelques bêtises. Alors, vous l'avez compris, la discipline était la qualité essentielle du pasteur dans sa fonction d'enseignant. Ici, c'est de courage et de persévérance dont il aura besoin. Mais, mes chers amis, le courage et la persévérance ne sont pas seulement des qualités données, elles s'apprennent dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi, par exemple, en école biblique, nous avons une dimension communautaire à la formation. Nous ne nous contentons pas de laisser nos étudiants derrière leur table écouter nos cours. Nous les impliquons dans une vie communautaire qui, généralement, forge le caractère. Celui de l'enseignant aussi, d'ailleurs. Apte à enseigner, prêt à conduire et disposé à prendre soin du troupeau. Encore une nuance. Disposé à prendre soin. Pourquoi je le dis ainsi ? Parce que c'est un aspect du ministère qui demande beaucoup. Et d'abord, beaucoup de disponibilité. Prendre soin du troupeau, c'est probablement l'élément du ministère qui est le plus exigeant. D'abord, quand vous allez voir les gens dans la semaine, les autres ne le voient pas. Quand vous allez chercher la brebis perdue, les 99 qui n'ont pas besoin râlent de ne pas voir le pasteur. D'autre part, c'est par essence un aspect du travail qui draine dans l'entourage du pasteur un nombre important de gens perturbés, parfois manipulateurs, et en plus ça le renvoie à ses propres difficultés de façon insistante. Au début du ministère, je m'y suis donné sans réserve et aussi sans prudence, alors que je pense que j'avais reçu à la fois une formation théologique suffisante et que j'avais donné du temps à cet aspect-là. Mais ce qui m'a manqué, et c'est un encouragement pour toi, Eric, c'est plus qu'une formation de base, en fait, c'est un accompagnement pastoral. Il est nécessaire que le pasteur ait un pasteur, qu'il ait un aîné à qui il puisse faire part des interrogations, des découragements, des difficultés et des joies de cet aspect du ministère sur lequel il y a une confidentialité, évidemment, qui s'exerce. Je voudrais citer deux domaines où le pasteur peut progresser continuellement. Le premier, c'est l'écoute. Vous savez, ça paraît rien, mais une relation utile et riche de soins des autres, demande de savoir écouter. Or, l'exercice de l'écoute est moins facile qu'il n'y paraît. Ce n'est pas pour rien que ceux qui se forment à l'aumônerie dans les hôpitaux ont une formation spécifique à l'écoute des malades, avec un travail très exigeant qu'on appelle de verbatim, où ils transcrivent de façon précise tout ce qu'ils ont entendu au cours d'une séance et tout ce qu'ils ont dit, pour ensuite analyser le ressenti du malade et le leur. Alors, nous n'allons pas tous nous former jusqu'à ce point, mais il me semble que le pasteur devrait avoir au minimum quelques notions simples, comme savoir reformuler des choses qui lui ont été dites pour s'assurer qu'il les a bien comprises. Le pasteur devrait aussi savoir qu'une question ouverte et une question fermée ne permettent pas les mêmes choses. Il devrait savoir que le silence a aussi sa place dans l'entretien. Il devrait aussi apprendre à gérer le stress de l'écoute, parce qu'on n'écoute pas sur un nuage. Il y a les enfants à aller chercher à la sortie de l'école. Il y a la femme qui ne nous voit jamais et qui pourrait rouspéter quand on rentre à la maison. Et puis, il y a une chose que j'ai eu bien du mal à faire, savoir placer des limites aux entretiens, sans que la personne se sente abandonnée. Le deuxième domaine où le pasteur peut apprendre, c'est l'exercice du discernement. La relation qui s'établit entre un pasteur et une personne qui est écoutée n'est pas dénuée d'ambiguïté. Il y a des personnes psychiquement malades. Et le pasteur devra savoir le repérer, parce qu'il n'est pas compétent pour s'occuper de cas psychiques lourds. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper d'eux, mais il faut savoir quand ma responsabilité s'arrête et quand je dois encourager à rencontrer un professionnel. Je pense aussi aux personnes manipulatrices qui tentent de diriger l'Église à travers le pasteur ou qui essayent de l'utiliser pour obtenir un avantage. Je pense aussi aux personnes qui sont restées dans une conception magique ou sacramentelle du ministère pastoral, qui vous disent à la fin de l'entretien « Monsieur le pasteur, priez pour moi !» Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire « Vous, Dieu vous écoute, pas moi !» Si vous restez dans cette attitude, vous n'aidez pas la personne à prendre conscience qu'elle a accès au trône de grâce au même titre que vous. Toutes ces situations sont abordées, ou en tout cas nous efforçons de le faire en institut biblique, de telle sorte que le pasteur soit conscient des difficultés, qu'il cherche de l'aide quand il est dépassé, et ne se contente pas, comme je l'ai vu souvent faire, de fuir les entretiens. Vous comprenez bien, parce que je viens de dire, que les compétences nécessaires aux soins pastoraux relèvent autant de la formation que des dispositions personnelles. Et qu'en la matière, il ne vaut mieux pas aller seul au combat. Ce que j'entends par là, c'est que cet aspect du ministère nécessite, pour le pasteur plus que les deux autres, d'être accompagné tout au long de sa vie pour ne pas être écrasé par la charge. D'autant qu'avec les années qui passent, nous avons affaire de plus en plus à des personnes qui ont des parcours chaotiques, dont les familles sont déstructurées et donc qui ont des choses lourdes à confier. Alors, je reste là sur les compétences du pasteur et je voudrais maintenant vous parler de la vocation plus rapidement. Parce qu'on peut être doué pour le ministère, on peut avoir fait l'école biblique ou la faculté de théologie, cela ne suffit pas pour être un pasteur. Ce qui est déterminant pour le ministère, c'est l'appel, c'est la vocation que Dieu adresse, alors pas simplement au pasteur d'ailleurs, à nous mettre à son service d'une façon particulière. Mais il faut préciser ce que nous entendons par vocation. Parce que l'affaire paraît tellement subjective qu'elle peut rendre le candidat perplexe. Il y a des gens qui se demandent toute leur vie si Dieu les a appelés à quelque chose. Et puis elle peut faire hésiter l'entourage. Qui de vous n'a pas entendu un jour ou l'autre un frère ou une sœur vous dire avec aplomb qu'il était appelé par Dieu à faire telle chose, sauf qu'il n'avait pas le premier don pour faire ce dont il parlait? Je pense à ce jeune qui me disait qu'il était appelé par Dieu pour évangéliser par la musique, mais il jouait faux. En scrutant les Écritures, le réformateur Jean Calvin a mis en évidence le caractère double de la vocation, sans lequel on ne peut pas parler de vocation authentique. Il dit que la vocation est à la fois interne et externe. Que veut-il dire? La vocation interne, c'est la conviction personnel donné par l'Esprit Saint, de façon ordinaire ou extraordinaire, qui s'enracine souvent dans un sentiment intérieur lié parfois au désir, parfois à la capacité simplement qu'on a de faire telle ou telle chose. À cette vocation interne doit correspondre une vocation externe, c'est-à-dire la conviction d'une ou plusieurs personnes donnée à elle par l'esprit de façon ordinaire ou extraordinaire, souvent liée aux capacités de la personne. En d'autres termes, si Eric est le seul à penser qu'il a un appel au ministère mais que personne ne le reconnaît, ça pose problème. Mais si ce qu'il sent dans son cœur trouve écho parce que les dispositions qu'il a vous sont évidentes, alors ça prend forme. Et il y a un exemple très simple dans l'Écriture. L'apôtre Paul et Barnabas, un jour, au cours d'une réunion de jeûne et prière, sont mis à part sous l'impulsion de l'Esprit-Saint pour partir en mission. Acte 13, vous vous souvenez de ça? Paul n'a pas attendu acte 13 pour œuvrer. Dès qu'il a été converti, il a annoncé l'évangile avec certains dons d'ailleurs. Mais quand cet appel intérieur a rencontré la confirmation de la communauté, la vocation externe, alors son ministère a pris plus d'ampleur. Il est parti avec d'autres en mission. Cette question de vocation se rapproche du discernement auquel vous vous livrez et qui aboutira à confirmer l'appel d'Éric ou d'un autre candidat pasteur pour l'avenir de votre église. La désignation, alors chaque église a sa façon de faire, dans les milieux baptistes c'est par un vote, mais la désignation est au fond une façon de formaliser la vocation externe. Toi, tu penses que Dieu t'a appelé à venir travailler dans notre église? Eh bien, en assemblée, après réflexion et prière, par le moyen d'un vote, nous confirmons ou non que nous partageons cette conviction. Je termine en disant un mot sur les conditions d'exercice du ministère. J'aurais beaucoup à dire, mais je vais me limiter à deux choses. J'aimerais tout d'abord reparler de la collaboration. S'il y a une constante, mes chers amis, dans le Nouveau Testament concernant le responsable d'église, c'est qu'il s'écrit au pluriel. Comme je l'ai déjà dit, je suis convaincu qu'un pasteur ne doit pas conduire seul une église locale, mais le faire en animant, ou s'il le faut, en formant, une équipe pastorale ou un conseil, et ce pour au moins trois raisons. D'abord, l'église est un corps, et selon Éphésiens 4, ceux qui assument des responsabilités dans l'Église sont les articulations de ce corps. Or, que je sache, pour qu'un corps fonctionne bien, il n'a pas qu'une articulation. Il ne suffit pas que la tête tourne sur elle-même. Il faut aussi que les bras et les jambes fonctionnent. Deuxième chose, je peux déjà, sans être prophète, vous dire qu'Éric n'a pas tous les dons. Et c'est heureux. Ce qui signifie que n'attendez pas que le pasteur sache tout faire. Mais sachez reconnaître avec lui ce qu'il sait faire, le seconder et en particulier prendre votre responsabilité là où il a moins de disposition. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous savez, il faut avoir, être enseignant, savoir s'occuper du troupeau, et j'oublie maintenant, avez-vous écouté ? Oui, c'est conduire, voilà, conduire. Évidemment, tous les pasteurs n'ont pas les mêmes dons dans les mêmes domaines. Je connais d'excellents enseignants qui sont moins bons dans le domaine de l'écoute. J'avais un grand-père qui était pasteur, qui n'était pas un grand enseignant, mais qui avait une grande capacité d'écoute. Donc, on a forcément des domaines où on est plus fort, et on a besoin d'autres pour nous compléter. Troisième raison. Le pasteur n'est pas payé pour tout faire. Écoutez bien, mes amis. Je dirais même que le boulot de pasteur, c'est un peu difficile parce que vous êtes payé pour mettre les bénévoles au travail. Hein ? Il n'est pas payé pour tout faire, mais pour former les membres de l'Église à prendre chacun leur part dans la vie et le service de la communauté. Alors, écoutez aussi bien, dans la communauté ou en son nom, parce que dans nos milieux, on a toujours l'impression que la vie de l'Église, c'est ce qui se passe dans les quatre murs de la communauté, mais j'espère que votre communauté ne se résume pas à ces rassemblements ici. La communauté doit être aussi en mission à l'extérieur. parfois à travers l'un de ses représentants, parfois par l'action de quelques-uns, mais l'Église, c'est plus que ce qui se passe entre quatre murs. Enfin, dernière chose, et comme après je m'en vais, je me dis que je ne cours pas grand risque, je voudrais parler de la rémunération. Hein ? Paul fait une remarque à laquelle il conviendrait d'être attentif en Église quand il s'agit du ministère pastoral. Alors, je vous lis dans la Bible Semeur. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Je plaide très simplement pour une rémunération juste qui permette au pasteur et à sa famille de vivre décemment, de telle sorte qu'il ait l'esprit libre pour exercer le ministère qui lui est confié. Je pense que la grille des salaires de notre fédération représente une rémunération juste. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que si des sacrifices doivent être entrepris en matière financière, il faut qu'ils soient librement consentis de la part du pasteur et qu'ils soient partagés. Parce que j'ai vu des églises qui ont pensé que le seul qui avait des sacrifices à faire, c'était le pasteur. Eux pouvaient s'en passer. Il me semble que le Seigneur ne bénit pas de telles attitudes. S'il faut faire des efforts, nous devons les partager. Parce que nous sommes tous prêtres. Et le pasteur n'est pas le prêtre qui peut faire ce que nous ne faisons pas. Il est comme nous, frère, prêtre devant le Seigneur. Il a une responsabilité particulière. Il fera sa part de sacrifice, mais il ne doit pas tout faire. Pour conclure, il me reste à dire à Eric de ne pas s'effrayer devant les exigences du ministère. Tu sais, Eric, quand j'ai commencé mon ministère, un de mes collègues m'a téléphoné de la ville d'à côté. Il m'a dit, tu sais, Étienne, le pastorat, c'est la plus belle des vocations. Et il a ajouté, mais c'est le plus dur des métiers. Tu y connaîtras d'immenses joies, mais aussi des difficultés. Ce qu'il te faut garder à l'esprit, c'est que le Seigneur sera toujours à tes côtés. Quant à vous, qui formez la communauté de l'Église baptiste de Clermont-Ferrand, je vous invite à discerner avec tout le sérieux nécessaire, mais aussi dans la sérénité, si le Seigneur vous conduit à faire appel à Eric ou à une autre personne. Souvent, le changement de pasteur est une période angoissante pour l'Église, stressante. C'est l'occasion d'exercer notre foi et de nous souvenir que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, le Seigneur nous donne toutes choses, y compris les responsables dont nous avons besoin pour notre communauté. Ayez donc une certitude, le Seigneur pourvoira à vos besoins comme il l'a fait jusqu'ici. Et surtout, chers amis, priez les uns pour les autres. Car le pasteur et les anciens ont besoin du soutien de la communauté, comme la communauté a besoin du fidèle et joyeux service de ses responsables. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.